OK, on va commencer notre 96e leçon dans notre série sur la théologie systématique, la doctrine que nous allons regarder ce matin, celle de la sanctification. Alors, on va regarder la sanctification progressive, surtout dans cette leçon-là, et on va la distinguer de la sanctification positionnelle. On fera ça un petit peu plus tard dans le courant de la leçon. Alors, la sanctification, c'est une œuvre divine qui est graduelle et progressive, et qui ne sera complété que dans la glorification. Alors, il faut comprendre que durant toute la vie, depuis notre conversion, aller jusqu'à ce qu'on entre dans le ciel, autrement dit, ça se fait de façon progressive et ça ne sera jamais complet, ça ne sera jamais parfait. Il va toujours y avoir place à amélioration dans notre vie humaine terrestre. Donc, c'est bien important de comprendre qu'elle ne sera jamais complétée sur la terre. Donc, c'est une œuvre du Dieu trinitaire. Il y a des versets dans la Bible qui parlent que c'est Dieu le Père, des versets qui nous disent que c'est Dieu le Fils, des versets qui nous disent que c'est Dieu le Saint-Esprit. Alors, c'est les trois. Alors, Dieu le Père, Jude, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Alors, on voit sanctifié en Dieu le Père dans le verset. Dieu le Fils, Hébreux, chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alors ici, on attribue l'œuvre de sanctification à Jésus, Dieu le Fils. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il y a des versets aussi qui parlent que c'est fait par Dieu le Saint-Esprit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors ici, c'est attribué à l'Esprit de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, un autre verset qui parle de la sanctification par l'Esprit. Alors, ce qu'on va faire, on va développer le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification. Le premier point qu'on va regarder, c'est la sanctification, sa nature. Alors, dans la manière habituelle de Gill, c'est de toujours dire d'abord ce qu'elle n'est pas, pour ensuite définir ce qu'elle est. Alors, ce que la sanctification n'est pas. Ce n'est pas une conformité à la lumière de la création ou de la conscience. Alors, quelqu'un qui obéirait à sa conscience toute sa vie, ça ne fait pas nécessairement, lui, une œuvre de sanctification. Ce n'est pas non plus une vertu morale. Ce n'est pas non plus une conformité externe à la loi de Dieu, donc le décalogue, la loi morale. Quelqu'un qui, au cours de la vie, chercherait à obéir aux 10 commandements, pourrait y arriver jusqu'à un certain point d'une façon externe. Alors, c'est pas la sanctification. Quand une personne a une conformité externe à la loi de Dieu, ou au décalogue, ou à la loi morale, appelez-la comme vous voulez, alors à ce moment-là, ce n'est pas véritablement de la sanctification. Ce n'est pas non plus une réforme extérieure de la vie et des mœurs. Par exemple, une personne qui prenait de la boisson, qui arrête de prendre un verre, parce qu'il se joint à un groupe, ou la drogue, ou quelque autre forme de réforme de nature morale dans sa vie, ce n'est pas de la sanctification. Alors, ce n'est pas non plus la grâce restreignante exercée par les lois humaines, les parents, les autorités, les magistrats, le ministère de la parole ou de la religion. Alors, on sait que, dans le passé, ici au Québec, on le sait très bien, l'Église catholique, alors qu'il y avait le dessus du pavé, enseignait quand même le décalogue, les 10 commandements de Dieu, et ça restreignait jusqu'à un certain point le développement du péché. Ce n'est pas ça la sanctification. C'était tout simplement l'influence des choses de la Bible. Ce n'est pas non plus des dons ordinaires ou extraordinaires des hommes. Ce n'est pas une restauration ou une réparation de l'image perdue d'Adam. Et ce ne sont pas, bien sûr, les œuvres. Parce qu'on sait que les Écritures nous enseignent qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Maintenant qu'on a vu ce que c'est pas, on va regarder maintenant ce que c'est. Alors, c'est le dépouillement du vieil homme et non pas l'éradication, l'enlèvement complet ou la destruction du vieil homme. C'est en quelque sorte une dépossession, un détrônement, un désassujettissement progressif. Alors, on s'explique. Le vieil homme, après notre salut, demeure présent en nous et il continue de vouloir prendre la place. Ce que la sanctification est, ce n'est pas que Dieu enlève notre vieille nature. Ce n'est pas qu'il l'enlève complètement ou qu'il la détruit. C'est une dépossession, un détrônement, un désassujettissement. Ça veut dire qu'on devient de moins en moins dépendant d'elle. On devient de plus en plus débarrassé de son influence et de sa domination. Alors, il faut bien faire la différence entre les deux. Éphésiens 4, versets 22 à 24, « À vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc, la sanctification, ça consiste à dépouiller le vieil homme et ça consiste à revêtir l'homme nouveau. Donc, tu enlèves quelque chose à une partie de ton être et tu revêts de d'autres choses que Dieu t'a données. Donc, c'est le revêtement du nouvel homme. Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Voyez-vous, dans le verset, il y a deux endroits où ça parle de la sanctification en termes de se revêtir de quelque chose. Romains 8, versets 12 à 14. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, on vient de voir une série de 14 leçons récemment qui étaient justement sur Romains 8, 13, qui était la question de la mortification du péché. Alors, justement, la mortification fait partie de la sanctification. Colossiens, chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un saint principe. C'est une œuvre divine. Et si on avait à donner des qualifications à cette œuvre divine, on pourrait dire d'elle qu'elle est excellente, gracieuse et interne. C'est une semence de Dieu qu'on reçoit au moment de la régénération. Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. » Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Acte 26, verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alors ici, 1 Jean 3, 9, ça ne veut pas dire qu'après qu'une personne est chrétienne, qu'elle ne pêche plus du tout. Ça veut tout simplement dire que ça ne devra pas être une pratique constante, une habitude de sa vie. Ça devrait être quelque chose dont il devrait se débarrasser graduellement. Alors, il faut le comprendre dans cette perspective-là. Alors, c'est important de voir que la sanctification, c'est une racine divine. Alors ici, le Seigneur lui-même, Jésus, parle et dit... Il parle des semences, il dit, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, c'est vraiment dans le contexte des quatre semences. On sait qu'il n'y a rien qu'une qui est vraiment la semence de Dieu. C'est la racine. Si tu n'as pas la racine, c'est sûr qu'il n'y aura pas de sanctification dans ta vie. Les Écritures utilisent aussi parfois l'image de l'huile divine, Matthieu 25, versets 3 et 4. Alors, c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Alors, dans le verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, la plupart des commentateurs voient dans l'huile l'image du Saint-Esprit. Alors, s'il y a des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est sûr qu'ils n'ont pas été régénérés. Alors, ce sont des vierges folles. Alors, c'est un saint principe qui produit des saintes actions. Alors, ça produit des saintes actions en rapport avec plusieurs choses. D'abord, en rapport avec Dieu. Ça produit une sainte crainte de l'Éternel. On va prendre ici l'exemple de Néhémie dans le chapitre 5, verset 15. Néhémie dit, « Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 sicles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. » Alors, il était gouverneur du peuple des Juifs et il dit que ceux qui l'ont précédé ont opprimé le peuple. Ils agissaient comme des dictateurs, ils ramassaient leur argent, et lui il dit, « Moi, je n'ai pas fait cela. » parce que j'ai la crainte de Dieu. Alors, dans la sanctification, une des premières choses que ça produit, c'est la crainte de Dieu. Ça produit aussi un amour pour le Seigneur. Job 27, verset 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Alors, ça amène aussi une soumission envers lui, des actes de dévotion et d'exercice religieux. Alors, on ne peut pas dire qu'on est croyant si la parole de Dieu, lorsqu'elle nous exhorte, lorsqu'elle nous commande des choses, qu'on peut les ignorer. Parce que, automatiquement, si on est sanctifié, si on est régénéré, ça va produire en nous une soumission, des actes de dévotion et des exercices religieux. Et ça va produire aussi une communion avec Dieu de façon privée et de façon publique. Alors, quand on est en communion avec Dieu, on a un culte privé et on assiste aussi au culte de façon publique. Et autre chose que ça va amener, autre genre d'action que ça va amener en rapport avec Dieu, c'est une recherche constante de sa gloire. Alors le principal, pourquoi Dieu accepte notre service alors qu'il ne l'accepte pas de ceux qui ne sont pas régénérés, c'est parce qu'on le fait pour sa gloire. Quand on fait les choses pour le bon motif, Dieu accepte nos bonnes actions. Quand on fait les choses pour les mauvais motifs, Dieu n'accepte pas les bonnes actions des hommes. Alors, c'est sûr que quand on est chrétien, le premier motif de notre action devrait toujours être la recherche de la gloire de Dieu. Donc, ça produit des saintes actions en rapport avec Dieu, mais ça produit aussi des saintes actions en rapport avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'amène une absolue confiance en lui, en Jésus-Christ, pour le pardon du péché et de la culpabilité qui y est rattachée. Aussi, ça l'amène une confiance en lui pour notre justification et pour la rédemption. Ça l'amène aussi une soumission envers lui, qui est le roi des rois et aussi le roi des saints. Et ça l'amène des actions en rapport avec Jésus-Christ en le prenant comme exemple pour imitation. C'est sûr que si on se met à lire les quatre évangiles et qu'on regarde la manière dont le Seigneur agissait, non seulement envers son Père, mais envers les hommes en général, on a beaucoup à apprendre de lui. Alors, on a aussi, les Écritures nous disent que les bonnes actions qui sont en rapport avec Jésus, c'est aussi en voulant se conformer à son image. Parce que on est censé, avec le temps, de ressembler davantage à Jésus-Christ. Plus on avance dans la foi, plus c'est censé paraître. Ça l'amène aussi des saintes actions en rapport avec le Saint-Esprit. Alors, ça l'amène l'affection aux choses de l'Esprit. Romains 8, verset 5. « Car ceux qui sont selon la chair sont affectionnés aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'Esprit sont affectionnés aux choses de l'Esprit. » Donc, non seulement ça va amener une affection aux choses de l'Esprit, mais ça va amener qu'on va aimer se laisser conduire par l'Esprit. Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ça va amener aussi un désir et une précaution de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est aussi un désir de vivre et de marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Donc, ça amène des bonnes actions en rapport avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit, et aussi en rapport avec le péché. Donc, ça va nous amener à approuver, avoir un amour et une délectation dans la loi de Dieu. Psaume 119, verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. » Ça va normalement nous amener aussi une haine et une opposition au péché. Galates, chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est aussi une abstention du péché. Tite, chapitre 2, verset 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Ça l'amène aussi une volonté et un désir sincère d'en être définitivement libéré. Alors normalement, chrétien, son désir le plus cher, c'est de voir le jour où il n'aura plus sa vieille nature, sa vieille chair, pour qu'il l'amène à pécher. Alors, la sanctification, deuxième point qu'on va regarder, c'est le sujet. Ce sont les élus de Dieu et les rachetés par Christ. Cette sanctification est entière, c'est-à-dire qu'elle comprend à la fois une sanctification de l'âme et aussi du corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens, chapitre 4, verset 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Romains chapitre 6, verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Le troisième point qu'on va regarder, la sanctification, c'est cause. La cause efficiente, bien entendu, c'est Dieu, Dieu le Père. 1 Pierre 1, verset 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alors, on a aussi des versets qui parlent de Dieu le Fils, Hébreux, chapitre 2, verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Alors, la cause efficiente, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Encore une fois, c'est une œuvre du Dieu trinitaire. Donc, la cause initiante, qu'est-ce qui fait qu'il y a un début à tout ça de sanctification? C'est la grâce et le bon plaisir de sa volonté. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Et la cause instrumentale, quel est l'instrument que le Seigneur utilise pour nous sanctifier? Il nous dit dans la parole, c'est la parole de Dieu, écrite et prêchée. Alors, le Seigneur dit, ta parole nous sanctifie. Alors, c'est par la lecture de la parole, l'étude de la parole, la méditation de la parole, toutes les choses qu'on peut faire avec la parole, écrite, par notre propre culte et aussi par les cultes publics, parce qu'on reçoit quand même une sanctification qui arrive par la parole prêchée. La quatrième point qu'on va regarder, la sanctification, c'est propriété. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera toujours imparfaite dans cette vie. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une différence entre la sanctification positionnelle et la sanctification progressive. Pourquoi aujourd'hui la Bible peut nous appeler saints? Alors que notre sanctification, tout à l'heure, on a dit qu'elle serait en Christ, on est parfait en ce sens qu'il a subi notre châtiment à notre place et qu'il a accompli la loi à notre place. En lui, c'est pour ça qu'on appelle ça positionnel, notre position face à Dieu, c'est réglé une fois pour toutes, nos péchés sont payés, et aussi on est déclaré juste parce que, à cause de la justice de Christ qui nous est imputée. Ça, c'est positionnel. Progressif, ça veut dire que après qu'on est sauvé, on a encore notre vieille nature, comme la Bible nous dit, et normalement, le développement normal de notre vie chrétienne va être qu'on va se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. On a vu tantôt. Alors, c'est progressif et ça ne sera jamais parfait sur cette terre. Il y a pas le chrétien qui est le plus avancé de toute la terre, s'il y en a un, d'où nous en avoir un quelque part, disons qu'il y en a un, ben lui, il a encore de la place à l'amélioration. Parce que tant qu'on va être sur la terre, il va avoir de la place à l'amélioration. Alors, notre sanctification progressive, elle, est imparfaite. Tandis que la positionnelle, elle, est parfaite et complète. Alors, c'est important de faire la différence entre les deux. Philippiens, chapitre 3, versets 12 et 17. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est Paul qui parle. Alors, quand on regarde la vie de Paul, avant qu'on soit rendu, qu'on ait accompli tout ce qu'il a accompli, on a enduré tout ce qu'il a enduré. On a des galettes à manger encore pas mal. Alors, lui-même, Paul reconnaît, il dit qu'il n'a pas atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Imaginez-vous, Paul, il fallait pas qu'il suive le Seigneur de façon ordinaire pour oser dire « Soyez mes imitateurs ». Il fallait qu'il marche vraiment proche de Dieu. Mais il reconnaissait lui-même qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Donc, la sanctification est imparfaite et démontrée. Je parle de la sanctification progressive. Elle est imparfaite et démontrée par les besoins des saints, la manifestation occasionnelle du péché, et par le fait que la foi soit parfois faible et faillible. Romains 7, versets 18 et 19, Paul encore qui parle, il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Oui, tu es en train de dire que même quand il parle à des chrétiens, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Luc 17, verset 5, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. » Alors, on peut constater que la sanctification est progressive dans plusieurs versets, mais un qui est très clair, c'est 1 Jean 2, versets 13 et 14, parce que l'apôtre Jean parle de différentes catégories de chrétiens, les bébés, les jeunes et les vieux. Alors, ça prouve une chose, c'est qu'il y a un développement dans la vie du chrétien. Quand ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment des bébés, il ne parle pas de bébés, il parle de personnes qui viennent d'arriver au Seigneur, qu'on les considère comme des bébés en Christ. Il dit, « Je vous écris, Père, » alors là, il parle à des vieux chrétiens, « parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, » donc c'est des gens qui sont peut-être plus jeunes un peu, « parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits-enfants. » Alors, quand il parle de petits-enfants, c'est comme des bébés en Christ, « parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Donc, il y a une progression dans la vie chrétienne. On part de bébé, mais c'est pas normal que ça fait 25 ans qu'on est chrétien, qu'on soit encore un bébé. Parce que là, il y a un problème. Il y a un problème de nutrition quelque part. Marc 4, versets 28 et 31-32. Alors, c'est encore la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et il pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc, la sanctification, c'est quelque chose qui ne sera jamais parfait sur cette terre. Cependant, elle est strictement certaine et nécessaire. On ne peut pas dire, j'ai la foi, puis moi, tout ce que la Bible dit, je m'en fous. Bon, ça ne marche pas comme ça. Alors, Hébreux 12, 14, qui nous avertit avec solennité, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est assez sévère. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Il faut se rappeler d'abord que la sanctification est une œuvre divine, essentielle, certaine et progressive. Soyons assurés que Dieu terminera ce qu'il a commencé. Quand quelqu'un a été converti par le Seigneur, régénéré par le Seigneur, il va le prendre d'un point puis il va l'emmener à un autre. Il ne le laissera pas comme il était au début. Parce que c'est ça que la Bible enseigne, que c'est quelque chose qui est progressif et qui est nécessaire. La deuxième application, le Seigneur nous invite notre participation à cette œuvre en utilisant tous les moyens de grâce qu'il nous a laissés. Alors, on a une participation à notre sanctification, on se doit de le faire de façon authentique, fervente et active. Sachons la distinguer de ses fausses imitations. Le Seigneur nous a donné des moyens pour nous sanctifier. Lui, il dit qu'il va nous sanctifier, mais il veut qu'on participe dans le sens que la parole est là et on se doit d'utiliser la parole pour nous sanctifier. La parole à la fois écrite dans nos propres cultes personnels et aussi dans les cultes publics. Et il nous a donné d'autres moyens. Il nous a donné le repas du Seigneur. Il nous a donné beaucoup d'autres moyens. Alors, c'est à nous de les utiliser. On ne peut pas dire, ben c'est la job du Seigneur, il va me sanctifier, puis moi, je m'occupe pas de ça. C'est les deux. Le Seigneur dit qu'il va te prendre un point puis il va te rendre à l'autre, mais il te demande aussi de faire ta part. Alors, troisième point, notre sanctification ne sera complétée que lorsque nous arriverons dans la gloire. Il n'y a aucun chrétien qui va atteindre la perfection dans sa sanctification sur cette terre, parce que la vieille nature est encore en lui, et jusqu'à la fin, tant qu'il ne sera pas décédé, il n'en rentrera pas dans la sanctification complète. La sanctification va se compléter de façon parfaite uniquement lorsque le chrétien meurt et entre dans la gloire. Quatrième application, remercions Dieu, louons Dieu et implorons Dieu pour plus de grâce sanctifiante. Alors, on peut demander à Dieu d'augmenter notre désir de se sanctifier, d'augmenter notre désir de participer à notre degré, à notre sanctification. Et si on lui demande, ça c'est absolument sûr que c'est selon sa volonté. Si on lui demande, puis il sent, le Seigneur sait qu'on lui demande avec ferveur, on lui demande avec sincérité, c'est sûr que c'est le genre de prière qu'il va nous accorder. Gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit pour son œuvre de sanctification. Amen. Amen. Alors, il y aura encore bien d'autres choses à dire sur la sanctification, c'est comme une introduction, mais on a quand même effleurer le sujet.